France Info.
Comme chaque dimanche soir, voici le débrief éco, 20 minutes de débat, d'éclairage sur les grands thèmes économiques et sociaux qui vont marquer la campagne électorale. C'est en partenariat avec le Cercle des économistes. Bonsoir Emmanuel Cuny.
Bonsoir, merci de nous rejoindre en ce dimanche de Noël. Alors deux thèmes au sommaire du débrief éco ce soir, le revenu universel et les grands dossiers économiques de l'année à venir. Quelle priorité aux yeux de nos deux invités que je vous présente sans attendre. Claire Vézan, membre du Cercle des économistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Gaspard Koenig du think tank Génération Libre. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Alors nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et on commence donc par notre premier sujet, le revenu universel, mythe ou bientôt réalité. Voilà ce qu'en disait récemment Manuel Valls.
Une très belle idée qu'il faut porter, concrétiser, expérimenter. Ce revenu, il faut en étudier les modalités juridiques, financières, bien sûr, évidemment. Il ne s'agit pas de remplacer la sécurité sociale ou l'assurance maladie, mais il s'agit d'inventer une autre manière de vivre dans la société. Ce revenu universel doit y contribuer.
Manuel Valls sur le revenu universel. Donc, c'était lors d'un déplacement en Gironde au mois d'octobre dernier. Une définition peut-être pour commencer. Gaspard Koenig, c'est quoi concrètement le revenu universel ?
Disons que c'est l'idée de donner la même somme à tout résident légal sur le territoire, de sa majorité à sa mort, tous les mois, qui lui permettent de couvrir ses besoins de base. Et donc de dire finalement la survie dans la dignité, le fait de pouvoir manger, de pouvoir s'habiller, de pouvoir téléphoner, de pouvoir se transporter, eh bien c'est un droit inaliénable, ce n'est pas une charité qu'il faut aller quémander au CAF, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'est quelque chose que tout le monde reçoit. Et qui donc simplifie drastiquement l'idée même du filet de sécurité et qui le rend réel, qui le rend prévisible, qui le rend visible.
Alors c'est une utopie ou une réalité possible, Claire Vézan, ce fameux revenu universel ?
La première chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est qu'il faut un minimum décent pour vivre pour tous dans la société. La deuxième chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est qu'il faut éviter effectivement toute stigmatisation, toute complexité excessive pour aller recevoir telle ou telle prestation. La question qui me paraît légitime une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces deux choses-là, c'est est-ce que vraiment ce revenu doit être universel ? Et s'il est universel, est-ce qu'on a les moyens de le financer ?
Alors comment on finance justement, Gaspard Koenig ?
Voyons les choses de manière un peu simple. Vous avez 700 milliards de dépenses sociales. Certains disent 15% de la dépense sociale mondiale. C'est énorme. Et de l'autre côté, vous avez toujours des gens avec des petits panneaux « j'ai faim » qu'on croise tous les jours dans la rue, dans le métro. Ça veut bien dire qu'il y a un dysfonctionnement majeur dans cette machine. En même temps, nous avons un niveau de redistribution très élevé, qui fait que selon nos calculs aujourd'hui, si l'on passait à un mode revenu universel, ça se ferait à coût zéro pour les finances publiques. Alors comment on le finance ? Dans notre modèle, on le finance par l'impôt sur le revenu, sur tous les revenus, capital et travail, qui se substitue donc à l'actuel IR, à l'actuel impôt sur le revenu. Et en fait, c'est très simple. Le revenu universel, c'est une somme que vous recevez tous les mois sous forme de crédit d'impôt. Ensuite, vous payez un impôt sur l'ensemble de vos revenus à la fin de chaque mois. Donc, vous soustrayez le crédit d'impôt auquel vous avez droit de l'impôt que vous payez. Si la différence est négative, vous recevez de l'argent. Si elle est positive, vous contribuez.
Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal pour un libéral, voire un ultra-libéral, de défendre cette position qui repose finalement sur la fiscalité, clairement ?
Plus authentiquement libéral, on ne fait pas, puisqu'on dit d'abord les gens sont responsables pour dépenser leur propre argent. On leur vient en aide en leur donnant de l'argent, mais on considère que l'individu est le mieux à même de déterminer ses propres besoins, mieux que toute administration.
Claire Vézan, vous êtes d'accord avec ce que dit Gaspard Koenig, notamment sur l'aspect fiscal, l'aspect financement de ce
Non, je ne suis pas d'accord parce que deux questions simples. Est-ce que les personnes qui touchent actuellement des minima sociaux vont toucher moins ? Si la réponse est non, ça veut dire forcément qu'il va falloir plus d'argent, puisque à la fois eux vont toucher ce qu'ils touchent aujourd'hui, et puis des tas de personnes qui n'en ont pas besoin, vous et moi, vont toucher ce revenu universel. Deuxième question, vous parlez des dépenses sociales qui effectivement sont élevées en France. Les dépenses sociales, ça comprend tout un tas de choses, des transferts aux ménages bien sûr, et puis des dépenses dont je ne crois pas qu'on ait envie de les supprimer.
Absolument.
Est-ce qu'on va supprimer demain les dépenses maladie, qui sont une autre forme de solidarité qui dépendent de la santé de chacun ? Est-ce qu'on va supprimer les dépenses liées aux retraites ? Je ne crois pas. Donc je ne vois pas dans ces dépenses sociales comment, de manière suffisante, on dégage les sommes nécessaires. Si je regarde l'ensemble des prestations qui vont au minima aujourd'hui, il y a un rapport qui a été fait par le député Sirugue, cet ensemble de prestations, c'est 8 points de PIB. Points de PIB, c'est moins de 200 milliards d'euros. On est très très loin des sommes qui sont nécessaires pour un revenu universel. Si on fait juste un calcul de coin de table, je pense qu'on le partage, 500 euros par mois, c'est 6 000 euros par an. Il y a 50 millions de Français qui sont majeurs, grosso modo, un peu plus. plus, ça fait 300 milliards d'euros à trouver.
Mais c'est pas parole à la défense.
Bien entendu, il ne s'agit pas de tout remplacer, notamment pas tout ce qui est contributif, donc santé, chômage, retraite et non plus les allocations spécifiques que sont les allocations par exemple handicapées ou même les allocations logement. Et ensuite, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que dans la mesure où ces 500 euros représentent un crédit d'impôt, on ne va pas donner en cash 500 euros à 50 millions de personnes. Mais simplement, on va calculer de manière différente leur impôt. Prendre un exemple très simple. Dans nos calculs, rapidement, si vous voulez 500 euros par personne en France, et vous avez besoin d'un impôt sur l'ensemble des revenus à 25%, qui se substitue à l'impôt actuel. Et vous faites la différence à la fin de chaque mois, je dis je paye 25% sur mes revenus et j'en soustrais 500, quel crédit d'impôt ? Si je touche zéro, eh bien j'ai les 500 à plein. Si je dois 1 million d'impôts, je n'en devrais plus que 999 500. Et toutes les situations intermédiaires sont possibles, ce qui fait que d'un côté, pour répondre à la gauche, vous éradiquez de manière absolue la grande pauvreté. De l'autre côté, pour répondre à la droite, vous avez construit un système dans lequel le travail paye toujours. Et tout le monde paye l'impôt, fût-ce sous forme virtuelle. Donc pour aller vite, on met en commun un quart de ses revenus pour assurer un filet de sécurité pour tous. Chacun reçoit et chacun contribue.
Claire Ruzan.
Oui, deux choses. D'abord, l'impôt sert à financer beaucoup d'autres choses que le revenu minimum. Donc brancher un tuyau directement sur l'autre, c'est très assumé. En besogne. C'est très assumé, ça veut sans doute dire qu'effectivement c'est une vision très libérale dans laquelle il y a un tas d'autres dépenses publiques
n'est pas fongible.
Non, qui ne sont plus assurées.
Absolument pas, parce que nous sommes à l'équilibre par rapport à la situation actuelle dans nos calculs. Le dernier décile le plus pauvre touche légèrement plus que ce qui touche aujourd'hui et le premier décile le plus riche contribue légèrement plus.
Deuxième sujet, il y a beaucoup d'économistes qui réfléchissent autour de ces sujets-là. Il y a une idée alternative qui me paraît intéressante, qui est celle de Terra Nova, qui est un minimum décent unique. C'est un minimum unique, mais simplement, qui est sous condition de ressources. Tout le monde ne le touche pas. Ça doit être simple, non stigmatisant et ça permet d'avoir le même résultat en termes de décence, de niveau de vie pour chacun à un coût beaucoup plus faible.
Mais le problème,
ce rapport de Terra Nova est très intéressant et reprend beaucoup des éléments que nous proposons. Mais simplement, le problème, c'est que comme ce n'est pas universel, vous êtes obligé d'avoir de nouveau des conditions de recherche d'emploi, des conditions d'incitation au travail. Et donc, vous reconstruisez un système conditionnel où il va falloir aller pointer, se faire vérifier. D'ailleurs, Terra Nova le reconnaît tout à fait dans son rapport. Le génie du revenu universel, c'est que vous n'avez plus rien à demander, qu'on vous garantit un droit et que ce droit est le même pour tous et que le fait que chacun reçoive, fût-ce de manière virtuelle, ce crédit d'impôt est une manière de mettre tous les citoyens égaux devant la loi et devant les bénéfices sociaux.
On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Hein. Merci, on va marquer une courte pause, le temps des titres de l'actualité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce débrief éco sur France Info avec Claire Vézan et Gaspard Koenig.
Et ce sera dans 2 minutes, Emmanuel Cuny.
Bonjour, c'est Jean-Michel Apathy. Je vous retrouve du lundi au vendredi à 8h30 sur France Info. Une demi-heure de politique autrement avec mon invité. Rendez-vous tous les matins de 8h30 à 9h sur France Info.
France Info.
17h-20h. Bernard Thomasson.
Merci de votre fidélité à France Info en ce jour de fête, ce jour de Noël. Très bon Noël à tous. Dans un instant, la deuxième partie du débrief éco avec Emmanuel Cuny et ses invités. D'abord, toute l'info, il est 19h20, Yasmina Adila.
La nuit de Noël s'est bien passée, déclaration de Bruno Leroux. 91 000 gendarmes, policiers et militaires ont assuré la sécurité dans tout le pays hier soir. 2400 lieux de culte étaient particulièrement sous surveillance. Un homme en garde à vue à Marseille, il est âgé de 22 ans. On le soupçonne d'avoir participé au meurtre hier soir dans les quartiers nord de la ville. Un jeune de 19 ans abattu par balle dans un bar pizzeria. C'est le 33e homicide dans le département depuis le début de l'année. Fin de l'alerte pollution en Savoie et Haute-Savoie. La qualité de l'air semble s'améliorer sur le bassin grenoblois, selon les préfets des deux départements. La vigilance est levée pour les villes qui se trouvent entre Chambéry et Annecy. Mais pour les jours suivants, Météo France reste vigilant. Il y a de moins en moins de chances de retrouver des survivants du crash de l'avion en mer Noire. L'appareil militaire russe s'est abîmé près de Sotchi. 92 passagers étaient à bord du Topolov. Parmi eux, des membres de l'un des chœurs de l'armée rouge, des artistes qui se rendaient en Syrie pour célébrer le nouvel an avec les soldats. Vladimir Poutine a déclaré la journée de demain jour de deuil national. 54 000 évacués ce matin de leur maison en Allemagne. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée à Augsbourg, près de Munich. Il aura fallu 5 heures aux démineurs pour neutraliser l'engin anglais. Cette bombe pèse près de 2 tonnes.
France Info. Deuxième partie pour le débrief éco avec cette question. Votre souhait économique pour 2017. On retrouve Emmanuel Cuny et ses deux invités, Claire Vézan, membre du Cercle des économistes, notre partenaire du rendez-vous, et Gaspard Koenig du think tank Génération Libre.
Deuxième débat pour ce débrief éco, on va se projeter en avant. 2017 arrive à grands pas avec sa lourde actualité politique dans la perspective évidemment de l'élection présidentielle. Comme nous sommes soir de fête, carte blanche à nos invités, c'est cadeau ce soir pour inspirer peut-être d'ailleurs les candidats à la présidentielle, qui sait. Alors question, votre souhait économique pour l'an prochain. Honneur aux dames, Claire Vézan, votre souhait économique pour 2017 ?
Alors, avant de parler de 2017, parlons un tout petit peu de 2016 pour dire qu'on sort d'une période qui est extrêmement difficile. La crise mondiale, grosso modo, a 10 ans. Crise mondiale, crise en Europe, croissance très faible dans l'ensemble des pays européens. On voit bien que ces années économiques ont été difficiles. Elles ont aussi été difficiles d'un point de vue politique. Sentiment peut-être pour certains qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre et donc saut dans un certain nombre d'inconnus. Comme le vote britannique pour le Brexit.
Alors, votre souhait, clairement, dans ce contexte ?
Alors, mon souhait dans ce contexte, c'est qu'on réussisse à faire réadhérer l'ensemble de la population à un projet économique qui soit un projet économique partagé. On n'y est pas encore, mais je crois que c'est la condition aujourd'hui de santé de nos démocraties.
Mais est-ce que ce n'est pas un concept quand même un peu vague ? Et est-ce qu'on ne s'est pas laissé enfermer finalement, sans passer réellement à l'action, ou en tout cas suffisamment et concrètement ?
Je crois que ça veut d'abord dire recréer du lien social, lutter contre les inégalités. La première des inégalités, c'est l'insuffisance d'emploi.
Lutter contre le chômage.
Lutter contre le chômage, c'était une priorité, ça restera une priorité.
C'est quand même depuis 40 ans d'ailleurs.
Ça l'est depuis 40 ans. Il faut espérer que collectivement, on apprend. Je crois qu'on a, sur les années récentes, on a fait un certain nombre de choses qui étaient utiles en matière de réforme du marché du travail, en matière de baisse des charges pour les peu qualifiés. Il faut aller inciter les entreprises à embaucher des gens, pour, y compris quand ce sont des peu qualifiés. Aujourd'hui, l'économie française recrée de l'emploi. Elle en crée plus qu'elle n'en détruit, mais je crois que c'est la première priorité. La deuxième, c'est de lutter contre les inégalités de chance. Les inégalités de chance, elles existent dans beaucoup de domaines. Elles existent à l'école en particulier. On est, comme vous le savez, un des systèmes scolaires les plus inégalitaires, de toute évidence. Ça n'est pas satisfaisant.
C'est ce que disait récemment l'enquête PISA, d'ailleurs.
C'est ce que disent les enquêtes PISA, là, pour le coup, année après année. On reste dans un système trop inégalitaire. Et puis, dernière chose, on a un système fiscal, social, qui doit contribuer, lui aussi, à lutter contre les inégalités.
Alors, Gaspard Koenig, en réaction à ce que dit Claire Vézan, comment recréer le lien social, concrètement, dans les faits ?
Cette idée de lien social, finalement, je pense que ce n'est pas une idée politique et que ce n'est pas la politique de le faire, et qu'on va dans un monde de plus en plus individualiste, et c'est une bonne chose, où finalement l'appartenance au collectif, les valeurs communes, si on en parle beaucoup, c'est parce qu'en un sens ça a déjà disparu, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les gens se constituent des identités multiples et n'ont plus le sentiment d'appartenir de manière...
Sans pour autant être égoïste.
Non, au contraire, l'individualisme, c'est le contraire de l'égoïsme, c'est ce qui permet précisément d'être généreux et de créer ensuite des liens, des communautés qui sont beaucoup plus diverses et qui ne sont pas attachées à un ensemble homogène. Et je pense que ce que montrent aussi les mouvements sécessionnistes dans le monde entier, c'est qu'on est en train de, peu à peu, de s'éloigner de l'idée d'État-nation telle qu'elle était conçue à l'ère industrielle, et l'idée d'une collectivité soudée avec des catégories auxquelles les gens appartenaient, qu'on va vers un monde plus complexe, plus liquide, etc.
Donc la solution, c'est quoi alors concrètement ?
Moi, je voulais en fait parler de 2027, puisque Claire Vézan a parlé de 2016, et ouvrir un peu un sujet, disons, plus futuriste, mais qui va, à mon avis, être au cœur de l'économie de la connaissance qu'on nous annonce, de l'économie de la donnée, de l'économie numérique. Et ce sujet, c'est le sujet précisément de la donnée. Aujourd'hui, la commissaire européenne nous dit que 10% du PIB européen, c'est de la data, de l'échange de data. De la donnée personnelle ou autre. Eh bien, nous pensons, et nous allons agir en ce sens, que les données devraient être la propriété de ceux qui les émettent, et que vous devriez être propriétaire de vos données personnelles. En d'autres termes, et pour aller très très vite, ça veut dire que Facebook ou Google ou Amazon devraient vous rémunérer pour l'utilisation qu'ils font de vos données, qui leur permet à eux de se valoriser et de faire beaucoup, beaucoup d'argent et d'avoir de bons cours de bourse. Je pense qu'il y a une extorsion de valeur inouïe, en fait. On est au début du numérique, donc forcément, c'est un peu sauvage, c'est normal, c'est le début d'une industrie. De même que, rappelez-vous, au début de l'ère industrielle, on n'avait pas encore inventé le droit de propriété intellectuelle ou sur les brevets. Et qu'aujourd'hui, on va devoir inventer le droit de propriété numérique sur les datas. De sorte que ces datas, vous ne les lancez plus, au lieu de cocher des... Vous savez, vous cochez tous les jours des conditions d'utilisation qui sont complètement léonines, qui font 100 pages, que vous n'avez aucune possibilité de négocier. Oui. Vous abandonnez vos données, vous êtes du coup mis sous surveillance, soit par l'État, on peut en parler, soit par les compagnies privées et les GAFA, et que tout ça doit pouvoir se négocier dans le terme de contrat de droit privé.
Est-ce que c'est pour autant un projet, est-ce que ça peut être pour autant un projet politique, Gaspard Koenig?
C'est un projet politique puisque vous
est-ce
rendez...
Est-ce qu'un candidat à la présidentielle peut dire, voilà, devrait, dans mon programme, je vais traiter du big data et
d'abord,
de l'open data?
Mais en fait, il ne devrait parler quasiment que de ça, parce que c'est véritablement l'économie de demain, au lieu de parler des 35 heures qui sont quand même les sujets d'hier. Et ensuite, ensuite, c'est très simple. En droit, il suffit d'ouvrir une petite case, on pourrait vous en parler dans le code de la propriété intellectuelle, pour permettre de monétiser la data. Et est-ce que ce n'est pas précisément un projet de société que de permettre aux gens de reprendre leur autonomie, ce qui fait aujourd'hui leur être numérique, et qui est, à l'heure où l'on parle, complètement éparpillé dans la nature.
Pour l'instant, c'est encore 1984 d'Orwell, finalement, non ? On est espionné de partout.
Mais les gens, il y a une prise de conscience. Les gens voient bien que toutes les pubs qui les targetent de manière extrêmement précise, ça vient du fait qu'on utilise leurs données à leur insu. Et ça, c'est insupportable. Alors aujourd'hui, le droit évolue. On essaye de mettre en place des droits, des obligations. C'est la loi numérique, etc. Mais moi, je pense que le bon concept pour gérer ça, c'est le concept de propriété qui a permis de résoudre bien des choses déjà dans les siècles passés. Et de redonner aux gens une pleine maîtrise de leurs données.
Claire Vézan, ça vous inspire, ce programme numérique ?
Avant de parler du numérique, d'abord un mot sur l'individualisme. Je ne crois pas qu'on puisse ériger l'individualisme en projet de société. Je pense que nous serons tous d'accord pour penser que le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, ce sont d'abord les biens publics. Les biens publics, ça ne peut pas se financer dans une démarche individualiste.
Mais si, ça n'exclut rien, mais c'est Popper, c'est la société ouverte, c'est le fait que l'individualisme...
Laissez terminer.
Je passe au numérique pour dire que pour le coup, c'est l'esprit de Noël. Je suis très d'accord avec Gaspard Koenig sur le fait qu'on a collectivement un très gros sujet qui est la protection et l'utilisation des données personnelles. Il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui, nous produisons une richesse. Cette richesse, nous en sommes tous, quelque part, les acteurs. Et pourtant, nous sommes dépossédés de cette richesse qui est utilisée par d'autres. Donc, tout à fait d'accord. Dernier mot pour dire que l'État aussi, c'est un producteur de données. Et que là, au contraire, il y a une démarche, et qui me paraît une démarche qui est très utile, pour éclairer les choix des citoyens, de mise à disposition de plus en plus de données. Je pense, par exemple, aux données sur les collectivités locales. C'est important que chacun sache ce que font les différents acteurs publics.
L'État est aussi un voleur de données parce que quand même, les dernières lois, la loi renseignement, le décret sur les méga-fichiers, fait qu'aujourd'hui, le premier captateur de nos données personnelles, c'est l'État et qu'il ne faut pas lui faire confiance.
C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, mais c'est un sujet grave parce qu'aujourd'hui, la France est un des pays démocratiques qui a les procédures les plus autoritaires pour surveiller ses citoyens.
Merci beaucoup à tous les deux. Claire Vézan, membre du Cercle des économistes, Gaspard Koenig du think tank Génération Libre. Merci encore, joyeux Noël à vous toutes et tous. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un autre débrief éco. Bonsoir.
Et joyeux Noël à vous, Emmanuel Cugny, à vos invités. Le débrief éco.